Alors, nous présentons une expérience pédagogique qui émane de la faculté de médecine de Nancy, l'université Henri Poincaré, qui est un travail du département de médecine générale, dont le coordonnateur du DES est le professeur Obrège, moi-même étant président du département de formation permanente, aussi en collaboration avec François Coller du département d'informatique, et puis le CEPAS, le centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé de l'université de Montréal, avec Bernard Charlin. Alors, je pense que tout le monde ici connaît le test de concordance de script qui permet d'évaluer les compétences décisionnelles des apprenants en référence aux décisions d'un panel de référence de la discipline. Tout ceci a été publié et nous nous sommes donc inspirés de cette technique qui est très utilisée, comme vous le savez, en FMC, qui a été aussi évaluée en formation médicale initiale, notamment dans le troisième cycle des études médicales, avec aussi des expériences dans le deuxième cycle au Canada. Donc, qui permet d'évaluer le raisonnement clinique en situation de complexité et d'incertitude, qui sont évidemment des situations extrêmement fréquentes dans la pratique, en particulier celle de la médecine générale en soins primaires. Donc, le contexte de notre département de médecine générale, c'est que nous avons beaucoup d'étudiants, 417 en 2010, que nous avons assez peu d'enseignants de médecine générale, nous en avons 6, et donc il est difficile d'assurer un tutorat parfait et un accompagnement complet de nos étudiants. Et nous avons depuis une dizaine d'années l'expérience de l'ECOS qui nous a servi à évaluer ces étudiants au niveau de leur enseignement théorique. Nous en sommes très satisfaits, sauf que, évidemment, ce sont des stations difficiles à mettre en place en raison du nombre important d'intervenants, du coût que cela représente et des difficultés d'organisation et qui a comme corollaire l'étroitesse du champ à évaluer puisque, de ce fait, nous sommes obligés de réduire le nombre de stations et qu'en conséquence, nous balayons une partie du programme seulement. Et puis nous avions envie de faire de nouvelles expériences et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'introduire la méthode des TCS pour l'évaluation des internes du troisième cycle de médecine générale, cela en accord avec le doyen et les instances et le conseil pédagogique. Donc nous vous rendons compte de cette expérience que nous avons développée avec le CEPAS de Montréal. Trois étapes pour mettre en œuvre ce processus. Tout d'abord une formation des enseignants au TCS, la fabrication des TCS et une première expérimentation en 2009 et enfin la validation par ces TCS du troisième cycle de médecine générale qui vient de s'achever au cours de l'année 2009-2010. Donc la formation a eu lieu à l'occasion d'une réunion le 24 octobre 2008 à la faculté de médecine de Nancy, qui était organisée par FMCPP Université et la faculté de Nancy. Et nous avions comme experts Bernard Charlin de Montréal, Patrick Didier de Marseille et le docteur Cagnat de Paris. Cette séance a été propice, elle a généré un certain enthousiasme et nous avons donc décidé aussitôt après de démarrer la fabrication des TCS et de les expérimenter pendant l'année universitaire 2008-2009. Les vignettes, vous savez, la base des TCS, ce sont les vignettes. Elles ont été rédigées par les responsables des thèmes d'enseignement. Nous avons annoncé des responsables par binôme qui regroupent pour chacun des thèmes, lorsque c'est approprié, un référent médecine générale et un référent de la spécialité concernée. Cette épreuve expérimentale en 2009 a eu lieu à la faculté sur des documents papier avec une correction manuelle. Et nous avons utilisé un logiciel accessible gratuitement en ligne pour le calcul, donc des résultats. Elle a concerné les étudiants de première et deuxième année de notre troisième cycle à l'époque. Elle était non sanctionnante et tous les résultats ont été transmis aux étudiants. Nous avons eu des retours d'expérience très positifs qui nous ont conduit à retenir cette méthode et à donc à l'appliquer de façon officielle pour la validation des enseignements théoriques de la fin du DES de médecine générale. Donc cette troisième étape a eu lieu pendant l'année écoulée. De nouvelles vignettes ont été rédigées toujours par les binômes de responsables des thèmes d'enseignement. Nous avons aussi acquis au département de médecine générale les droits d'accès complet, d'utilisation complète du logiciel CEPAS de Montréal. Nous les avons acquis pour 3 ans. Cela, évidemment, a nécessité un investissement. Nous y reviendrons. Et l'épreuve de TCS a eu lieu cette fois en ligne à la faculté de médecine pour les étudiants de première, deuxième et troisième année du DES de médecine générale. Et pour les étudiants de troisième année, cette épreuve était sanctionnante en fin de cursus. Les résultats ont été transmis aux étudiants. Alors, quelques mots sur la méthodologie. Donc, c'est celle habituellement connue et décrite. Il n'y a pas de changement. Les vignettes ont concerné toutes des situations cliniques de médecine générale, donc des situations en soins primaires. La correction et la sélection de ces vignettes ont eu lieu au cours de séances successives à la faculté de médecine avec les promoteurs de la méthode. Donc la phase expérimentale, nous avons utilisé comme panel de référence uniquement des généralistes enseignants, soit des professeurs, soit des chargés de cours, soit des maîtres de stage qui ont été sélectionnés sur le mode du volontariat. L'épreuve TCS a été rédigée dans des conditions voisines pour le panel et également, bien sûr, les étudiants. Nous avons utilisé, comme c'est l'usage, l'échelle de Likert pour coter les réponses pour chaque vignette de moins 2 à plus 2. Il y a eu également une enquête de satisfaction qui a été réalisée auprès des étudiants et nous avons fait un compte-rendu d'expérience devant le conseil du DMG et le conseil pédagogique de la faculté de médecine. La phase opérationnelle, de nouvelles vignettes ont été conçues en 2009-2010 et nous avons réalisé de façon complète via l'Internet l'épreuve avec personnalisation du site, saisie des vignettes, réalisation complète des épreuves pour le panel et les étudiants en utilisant soit des réunions des membres du panel à l'occasion notamment de réunions de SASPAS et également pour les étudiants en salle informatique de la faculté de médecine. Pour la première et la deuxième année, il s'est agi d'une épreuve d'entraînement puisque nous avons comme objectif d'entraîner les étudiants au TCS à la fin de la première année, de la deuxième année et ensuite de rendre la troisième expérience de troisième année validante pour les enseignements théoriques. Le niveau exigé était le suivant, le score moyen des étudiants moins 2 déviations standard. Voici donc là le niveau qu'il fallait atteindre pour être reçu. Et nous avons complètement exploité les résultats en ligne grâce au logiciel CEPAS. Alors voilà ici une petite photo qui vous montre le déroulement de l'épreuve, avec ici la page internet de début concernant l'accès donc à l'épreuve. Voici ici un exemple en ligne de TCS. Donc vous voyez une vignette qui est très très brève, comme d'habitude, qui exprime une situation clinique simple. Ici, une dysphagie douloureuse, une fièvre à 39, avec une description clinique chez un patient. Et comme d'habitude, si vous pensiez à prescrire une amoxicilline et que vous trouvez un TDR négatif, ce traitement devient, avec l'échelle de Likert, contre-indiqué, moins indiqué, etc. Même chose ici pour un autre item, la scarlatine avec une photographie. Donc on peut mélanger bien sûr tous les contenus multimédia que l'on souhaite. Ici, une rhinopharyngite, et si votre patient se présente ainsi, est-ce que ce diagnostic devient plus ou moins probable, et ainsi de suite. Donc voilà le modèle de nos vignettes. Résultat. Donc la phase expérimentale, tout d'abord, nous avons exploité 24 situations cliniques de médecine générale. Le panel était constitué de 24 médecins, 104 étudiants de première année et 111 étudiants de fin de deuxième année ont participé à l'épreuve expérimentale. Et voilà les scores moyens et médians qui étaient équivalents de nos étudiants, 77,3% en première année, 77,6% en deuxième année, avec des coefficients d'alpha de Cronbach qui sont très bons, de 0,96 et de 0,94. Et vous voyez ici les scores minimum et maximum des étudiants. Enquête de satisfaction, elle était considérée comme bonne ou très bonne chez plus des deux tiers des étudiants de première année et de deuxième année. La phase opérationnelle, donc la dernière, nous avions 36 médecins généralistes dans le panel de référence. Nous l'avons rafraîchi en ce sens que nous avons retenu uniquement 20 médecins qui avaient à l'épreuve un score supérieur ou égal à 70%. L'épreuve était sanctionnante pour les 147 étudiants de troisième année. Les résultats ont été communiqués à chaque étudiant. Un seul étudiant a été ajourné, 1 sur 147, qui avait donc moins que la moyenne, moins 2 déviations standard. Et nous avons considéré que l'investissement était coût efficace par rapport à les causes, car tout a été réalisé en ligne, y compris pour le panel, et nous avons donc diminué les coûts liés à l'organisation de les causes. Voilà ici le résultat détaillé donc des étudiants. Vous voyez un score moyen de 70,88, une déviation standard de 5,68, un minimum à 47, un maximum à 83 et un alpha de Cronbach à 0,72. Voilà la dispersion des notes des étudiants avec donc une concentration de la majorité d'entre eux entre 60 et 80% de concordance, ce qui est un très bon résultat. Alors l'évaluation globale, sur le plan de la préparation, nous avons organisé une réunion mensuelle, 8 au total, avec 5 à 10 enseignants à chaque fois pour la création et la validation des vignettes de TCS. Les vignettes balayaient environ la moitié du programme enseigné, c'est un programme de 206 heures en médecine générale. La phase expérimentale, nous avons rencontré surtout des difficultés d'exploitation des résultats, car ces résultats étaient sous forme papier, il a fallu les corriger, les transcrire sur des tableurs Excel et ensuite utiliser le calculateur en ligne, avec des risques d'erreur, bien entendu. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de réaliser complètement l'épreuve en ligne. Alors néanmoins, pour cette réalisation en ligne, nous avons eu quelques difficultés. L'examen était programmé en juin 2010 et, patatrac, il y a eu une saturation du serveur qui nous a empêchés de terminer l'épreuve à ce moment-là. L'épreuve a donc été annulée. Nous avons analysé l'incident et c'est là que nous avons constaté que c'était une saturation du serveur de Montréal. Nous avons donc renforcé les sécurités sur le serveur principal, mis en place un serveur de secours et l'examen a pu se dérouler normalement en septembre 2010, sans aucun problème, avec un logiciel tout à fait facile d'utilisation. Donc, nos conclusions, il s'agit donc d'une expérience de mise en place progressive d'une épreuve de TCS pour la validation du troisième cycle des études de médecine générale à Nancy. Nous avons travaillé en partenariat avec le CEPAS, qui a l'antériorité et l'expérience, donc de l'Université de Montréal avec Bernard Charlin. Le logiciel est payant, mais il est très facile à utiliser. Nous avons bénéficié d'une excellente assistance à distance et un enseignant médecin généraliste était référent pour cette technique, le professeur Aubrège. Donc quelques difficultés techniques liées à la surcharge temporaire du serveur, mais tout cela a été surmonté. Et finalement, cette méthode d'évaluation a été bien accueillie par les enseignants et les étudiants. Vous voyez que nous avons obtenu de bons résultats, un seul étudiant à journée. En fait, tout ceci correspond à ce qu'on connaît déjà avec l'ECOS. C'est une évaluation formative, mais elle n'évalue pas les mêmes savoirs et les mêmes habiletés que l'ECOS. Nos résultats sont encourageants et nous poussent à continuer cette évaluation par les TCS en 2010-2011 pour les internes de médecine générale. Bien sûr, nous réfléchissons aussi à la mise en place de méthodes complémentaires pour évaluer tous les savoirs et toutes les habiletés. Je vous remercie de votre attention.
Je vais vous présenter une application iPhone que nous avons développée pour l'enseignement de la neurochirurgie aux internes. Ça marche sur iPhone, mais ça marche également sur iPod et sur iPad. Alors, là, il y a mon nom, enfin, ça a été fait en collaboration avec notamment Jean-Jacques Moreau et puis le Collège de neurochirurgie. C'est beaucoup plus étendu. Alors, d'où ça vient, ça? Pourquoi on a été amené à faire ça? En fait, lorsque nous avons revu la maquette du DES de neurochirurgie, comme on fait de nombreux DES, il y a l'enseignement théorique, l'enseignement pratique, et dans l'enseignement théorique, en fait, il y a une liste de modules. Bon. Et puis c'est à cette occasion qu'on s'est aperçu que finalement, on n'avait pas réellement d'objectif pédagogique. Alors c'est un terme un petit peu ancien, on évolue dans la pédagogie, mais enfin c'est partie des choses qui ne sont pas inutiles. Et donc on n'avait pas réellement d'objectif pédagogique. Alors, on a regardé un petit peu ce qui se faisait. Et une des sociétés nord-américaines de neurochirurgie avait édité toute une liste d'objectifs pédagogiques. Il y avait 80 pages d'objectifs pédagogiques. Et ils avaient même mis ça disponible gratuitement sur Palm. C'est-à-dire que chaque étudiant en médecine, chaque interne en neurochirurgie avait son Palm, il y avait la liste des objectifs. Donc, à partir du moment où il y a un certain nombre de choses qui sont faites, autant profiter et autant les adapter. Donc, on a récupéré ces objectifs. Le CNS, c'est justement cette société nord-américaine. Et on les a d'abord traduits en langue française, et deuxièmement, on les a adaptés à notre spécialité. Mais il nous semblait que ça n'était pas suffisant d'avoir une liste d'objectifs comme ça un petit peu sec, hein, même si les internes peuvent se promener et voir régulièrement ce qu'ils doivent savoir. On voulait également rajouter une référence pédagogique à chacun des items lorsque c'était possible. Alors, quelle référence pédagogique? Il existe un livre collégial qui a été fait par les enseignants de neurochirurgie, qui a été édité il y a quelques années. Et ce livre, l'évolution naturelle de ce livre, c'est ce dont Emmanuel Cuny vous a parlé ce matin, c'est de faire l'encyclopédie numérique de neurochirurgie. Donc, les articles du livre de neurochirurgie sont en libre de droit maintenant, donc on peut les utiliser. Et donc l'idée, c'est de faire cette application et faire des liens HTML sur chacun des objectifs lorsque le livre de neurochirurgie répondait à cette demande. Donc cette application a été développée. Voilà, donc j'espère que ça passe assez bien. Donc ça, il y a un écran d'accueil. Bon. Là, on a le choix de la langue, parce qu'initialement, on avait fait e-neurochirurgie, et en fait, j'ai également fait la version anglaise, donc on a le choix, il y a une petite roulette, hein, comme ça. Bon, là, c'est la version française que je vais vous montrer, on appuie sur le bouton ici. Et puis après, donc c'est subdivisé en trois grands domaines, neurosciences, neurosciences chirurgicales, neurochirurgie, comme vous a montré Emmanuel Cuny tout à l'heure. Les neurosciences, ça c'est très, très nord-américain, ça les basic science, ils veulent absolument que leurs internes soient assez bien formés dans ces différentes spécialités, neuroanatomie, neurophysio, neuropathologie, etc. Puis, tout ce qui traite assez particulièrement de la chirurgie elle-même, la neurochirurgie elle-même, donc fluide électrolyte, neuroréanimation, infection, et ça, ce qu'on appelle le practice aux États-Unis, ce qui est tout ce qui est l'environnement juridique, psychologique, social de la discipline. Et puis, les domaines proprement neurochirurgicaux, donc cérébrovasculaire, oncologie, bon. Donc, vous avez tous ces domaines qui sont là. Lorsqu'on descend dans l'arborescence, voilà, on arrive là-dessus, on arrive sur une fenêtre web, hein, où il y a l'ensemble des objectifs. Et à l'américaine, ça a été subdivisé plutôt en trois domaines, junior, intermédiaire, senior. Et junior resident, intermédiaire resident, senior resident. Donc junior, on a un certain nombre d'objectifs, intermédiaire, senior. Et puis on a rajouté également les référentiels. Vous savez tout ce que c'est que les référentiels. Donc on a rajouté les référentiels métiers lorsqu'ils existaient. Et alors après, donc si vous regardez par exemple ici, on se déplace. Bon, si on veut avoir lorsqu'on souhaite avoir la référence pédagogique, alors quand c'est en bleu, c'est le livre de neurochirurgie, quand c'est en rouge, c'est l'encyclopédie. Bon, là, il y a quelques articles de l'encyclopédie qui sont parus. Vous voyez, on arrive directement sur l'article de l'encyclopédie numérique de neurochirurgie. On a également rajouté en dessous un certain nombre d'icônes du collège de neurochirurgie, du campus, etc. Alors, si je me rends sur le campus de neurochirurgie, on a testé ça tout à l'heure. On va peut-être grandir légèrement ça. On arrive sur les journées d'enseignement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des vidéos. Et alors, voilà, on va prendre les dernières. Et on va prendre, par exemple, un Bordelais, M. Castel. Et on voit ici Jean-Jacques Moreau. Donc, la vidéo arrive là-dessus. Voilà, la vidéo démarre.
D'abord, d'être en formation, parce que c'est une période de la vie, période professionnelle.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, quand on sort de là, on en rentre de nouveau dans l'application. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti pour aller sur QuickTime ou équivalent. On est de nouveau dans l'application et on peut revenir à l'écran précédent et repartir sur d'autres recherches. Alors maintenant, dernière chose, l'évolution de tout ça. Bon, évidemment, il y a des mises à jour qui sont régulières, qui sont incluses. L'application est volontairement payante. Nous avons réfléchi à ce sujet-là. Elle est volontairement payante. Il y a un effort psychologique, on va dire, d'acheter l'application. Mais elle est volontairement également au prix le plus bas d'Apple, c'est-à-dire 79 centimes. Alors, il y aura des évolutions sur la forme. Bon, ça, j'en parle pas. Sur le fond, on est déjà passé à la partie anglaise, enfin, langue anglaise. Nous allons effectivement faire régulièrement des relectures et des adaptations de tous les items, en fonction des différentes spécialités du collège. Il y a également des interactions très fortes avec l'encyclopédie numérique de neurochirurgie, parce qu'à terme, en fait, tous les articles devront être ceux de l'encyclopédie numérique de neurochirurgie, en langue française, et qui sera également en langue anglaise. Et puis, bon, on va évoluer sur un certain nombre de choses. Nous avons rajouté des scores. Bon, enfin, ça, je n'entends pas dans les détails. Et puis, on s'est dit également que, bon, le moteur de l'application, il est là. Et il pourrait tout à fait être utilisé dans d'autres disciplines que la neurochirurgie. Et également, le CN, parce que finalement, le CN se prête assez bien à ce genre de choses. Une liste d'objectifs qu'il faut connaître, auxquels on donne une réponse pédagogique que, pour l'instant, chacune des facs donne. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps. Je voulais juste vous montrer ce qui est pour l'instant, bon, c'est l'application est sur l'Apple Store, mais moi je considère ça comme un prototype, c'est amené à évoluer, évidemment.
Je vais donc vous parler d'une plateforme de e-learning, comme on dit en nom français. Donc qu'est-ce que c'est que VClass d'abord? VClass, c'est un LMS, un Learning Management System, une plateforme de e-learning qui est compatible SCORM, qui fournit donc des méthodes d'apprentissage à ses utilisateurs, aussi bien de façon asynchrone, donc ça c'est VClass lui-même, que synchrone, c'est MVClass pour Mobile VClass, et la VClass Web Conference dont on parlera à la fin. C'est un logiciel de gestion des apprenants, des cours, mais aussi du contenu. Il y en a d'autres, ça en est une parmi d'autres. VClass est donc un développement open source, par l'Asian Institute of Technology à Haïti, l'Asian Institute of Technology qui se trouve à Bangkok, a été cofondé par la France et la Thaïlande il y a quelques années. Donc, c'est écrit en PHP et MySQL et c'est financé par des fonds publics thaïlandais, mais c'est libre pour tous les organismes non lucratifs. VClass est actuellement utilisé dans plusieurs pays d'Asie, dont l'enseignement supérieur est anglophone en général, parce que même dans nos anciennes colonies, à part le Cambodge, la francophonie est plus que moribonde, et aussi à la faculté de médecine de Phnom Penh, qui reste la seule faculté de médecine un peu francophone, au Cambodge, suite à une collaboration qu'on avait eue il y a quelques années avec un projet SICASI. Alors, qu'est-ce que UMVFVClass? Alors, UMVClass, c'est la localisation, au sens de mise en français, de VClass, et on a internationalisé VClass et MVClass, ce qui était fait sous le nom de UMVFVClass, parce que c'était supporté par un projet UMVF. Ça a permis de les franciser, ça a permis de les adapter aux possibles besoins spécifiques qui peuvent émerger dans le cadre d'un usage via l'UMVF, avec prise en compte des spécificités d'enseignement des pays partenaires. On a développé un installeur qui permet de l'installer facilement sur une machine dans un pays tiers, et ça permet de mettre en place simplement l'ensemble UMVF, VClass, MVClass, UMVF Web Conference. On a aussi autonomisé les outils synchrones MVClass, lui, il est en Java, il est en train d'être réécrit pour se mettre au parfum des nouvelles versions de Java. Et puis, en attendant, on a fait développer VClass Conference à partir d'outils qui existaient déjà, dont je parlerai plus tard. Et ça, ça permet d'avoir des outils de web conférence indépendants de VClass. Alors, c'est une gestion des classes et contenus, c'est relativement classique, hein. Ça considère trois catégories d'utilisateurs, l'administration, donc la scolarité, ce qu'ils appellent le registrar en anglais, les enseignants, les étudiants, et puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de faire l'inscription en ligne, l'organisation temporelle des classes, l'organisation du travail des étudiants avec leur suivi, le suivi des performances, des notes, du temps qui passe sur chaque cours, la délivrance des diplômes lorsque c'est possible dans le cadre légal, et le stockage et la présentation des contenus aux étudiants, aussi bien en temps réel que différé, et puis d'autres tâches aussi. Alors, la page d'accueil de UMVF VClass, bon, c'est ça, hein, c'est-à-dire que ça permet aux gens de se connecter et à partir du moment où ils ont été enregistrés par l'administrateur au départ, ils sont, on connaît tout de suite leur catégorie. La scolarité va inscrire des étudiants en utilisant des pages relativement classiques. Elle peut aussi mettre en ligne des annonces. Et le prof, les enseignants vont donc pouvoir préparer leurs cours à l'intérieur de VClass en allant sélectionner des fichiers et prenons des choses assez standards. Il va pouvoir définir les cours et le travail avec le début de l'inscription, fin d'inscription, début de l'unité d'enseignement, période d'abandon, etc. Mais aussi un tas de choses comme affectation des tâches des étudiants. Faut que je prenne la souris. Affectation des tâches des étudiants, accès aux des étudiants, le résumé du travail, l'accès aux ressources, des notes éventuelles, les calendriers du courriel, la webconférence dont on parlera à la fin. Et pour l'étudiant, une fois qu'il a été inscrit, ben on s'y sait dans le système sait dans quel UE, unité d'enseignement, il a été inscrit, et donc il va tomber soit directement, s'il n'en a qu'une seule ou plusieurs, dans les cours qui l'intéressent et qui sont en activité à ce moment-là, puisqu'on a vu qu'il y avait des dates qui étaient prévues. Et alors l'étudiant peut voir les détails des cours, les crédits que ça va lui donner, la description, la pondération des notes, l'échelle des notes à laquelle il peut s'attendre et l'agenda des enseignants. Puis aussi avoir le résumé de son activité en unité d'enseignement avec le nombre d'accès, le temps total qu'il a passé. Et ça, évidemment, l'enseignant pourra le voir aussi. Et il peut avoir une idée de la présence des enseignants, c'est-à-dire le calendrier hebdomadaire lorsque les enseignants sont en ligne, lorsqu'ils peuvent avoir quelques séances en ligne avec l'enseignant ou quand l'enseignant ne sera pas disponible. Évidemment, tous ont une aide en ligne assez conséquente. Et MVClass, alors MVClass, c'est la classe virtuelle temps réel, c'est-à-dire que pour certaines classes, l'enseignant peut avoir envie de, au lieu que ce soit asynchrone qui donne du travail, que les gens le font en dehors, ils peuvent être en présence tous ensemble dans une classe virtuelle, un petit peu comme une conférence, téléconférence. L'enseignant prépare la session MVClass comme s'il s'agissait d'un contenu de cours normal, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici, mais il va dire que c'est une classe mobile, donc là il va pouvoir dire je veux la vidéoconférence, de la visioconférence, de l'audioconférence, des VTS. Alors des VTS c'est important. Peut être important en médecine, et c'était une des parties sur lesquelles on a un peu plus contribué, c'est le fait de pouvoir transmettre directement de la sortie d'une caméra numérique DV, comme celle que vous utilisez pour les vacances, et sans aucune compression et sans aucune modification de l'image, à travers Internet. C'est DV, Transmission System. Et évidemment, ça prend pas mal de bandes passantes, parce que ce sont des gros débits, mais ce sur quoi on a travaillé avec l'IT et le Japon qui a développé DVTS, c'est de mesurer en permanence la différence entre deux images qui se suivent, et si deux images sont très peu différentes, hop, elle n'est pas envoyée, ce qui diminue beaucoup le taux de transfert d'images, alors que le son, lui, n'est pas du tout changé. Et ça permet de diminuer fortement les débits et de permettre, même dans des pays qui, comme le Cambodge, où on l'a expérimenté et utilisé, qui était lié par un satellite à 5 mégas, donc avec des petits débits, ça passait très bien. Ça permet donc de faire des classes virtuelles, temps réel, interactives. Pour les étudiants, aussi bien que pour le professeur, entrer dans une classe MV classe, ben c'est simplement cliquer sur une classe comme il cliquerait sur une autre, mais ça va lui ouvrir une session MV classe où il va pouvoir sélectionner le cours s'il y en a plusieurs de prévus et puis sélectionner la session du cours en question. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Ben, il va trouver un petit peu ce qu'on trouve habituellement dans ce genre de système, c'est-à-dire un endroit où on peut montrer des diapos, la présence des participants, une ou plusieurs webcams, un chat, et puis un bouton pour faire du DVTS et puis un tableau blanc. Là, on l'a utilisé, par exemple, ça, en webconférence, en dehors de V-Class, pour faire une conférence entre l'UPMC, Keio University au Japon, les IT, où il y avait, comme vous voyez, pas mal de participants, et où l'orateur qui était en France ici participait via son écran et en voyant les réactions des autres. Et l'UMVF webconférence, alors... MV Class, c'est basé sur du Java, c'était basé sur du Swing, et donc qui était Java 1.5. Maintenant, Swing est plus 1.6, qui est en cours actuellement, ne supporte pas le 1.5. Alors, c'était un peu énervant, puisque Java met à jour en permanence, donc on se retrouvait toujours avec une nouvelle version, alors qu'il aurait fallu garder l'ancienne. Et donc, on est en train, ils sont en train, c'est à Bangkok, de le réécrire. Hein, mais en attendant, comme il fallait quand même avoir une... quelque chose de fonctionnel, on leur a demandé de mettre en place une webconférence plutôt genre flash, d'autant plus que ça permet de passer dans les hôpitaux à travers tous les firewalls, alors que le Java, souvent, il faut installer quelque chose sur un système et on n'en a pas l'autorisation en général par la DSI de l'hôpital. Donc, on a été intégré à UMVF V-Class, à une webconférence qu'on a aussi séparée comme pour l'autre, de façon à en faire une webconférence séparée. Donc, ça se présente comme ça. Et qu'est-ce qu'on va voir dans cette webconférence? Ben, un peu les mêmes choses, bien sûr, mais ça ressemble plus à Adobe Connect, hein, avec les participants, l'audio, les diapos, un tableau blanc qui permet d'écrire dessus, le chat, le clavardage, et puis une ou plusieurs diapos. Voilà. Et un partage de bureau aussi qui peut être souvent utile. Donc en conclusion, la disponibilité de V-Class pour les tests, vous pouvez aller sur ce lien-là, je ne vais pas y aller parce qu'on ne va pas perdre du temps pour ça, et pour les logging des tests, ben c'est test-track pour la scolarité, inst pour l'instruction, stud pour le student, et puis c'est le même mot de passe, mais c'est une plateforme de test. Webconf, c'est en accès libre, le nom demandé était demandé pour identifier les participants. Alors ça, je vais peut-être vous le montrer, parce que c'est un petit peu plus original, si on peut y aller. Là, simple. Donc, simplement, on met son nom. Là, évidemment, il ne va pas y avoir d'autres personnes à l'autre bout. Mais ça se charge, et puis ici on met les slides, on charge la présentation, etc. Donc vous voyez, c'est du flash, c'est extrêmement facile à utiliser. Et je reviens donc à la présentation pour dire que toutes ces ressources sont disponibles sur umvf.org, hein, dans ressources, téléchargement, outils, et pour télécharger l'ensemble, pour télécharger l'ensemble et pour l'utiliser, il faut un serveur, c'est du PHP et du MySQL. Voilà. Par contre, la webconférence, ça nécessite c'est du flash, donc ça nécessite Tomcat, Red 5 et Asterix. Et mais c'est libre d'utilisation. Merci de votre attention.
Bonjour. Alors le projet G-Squeeze, gestionnaire de questions, est déjà bien avancé puisqu'une version test est disponible sur la plateforme de l'UMVF. Bon, j'insiste pas là-dessus. Tout le monde connaît les avantages et la nécessité de la nécessité. Tout le monde n'en a pas, mais de maintenir une banque de questions, ça peut avoir toutes sortes d'intérêts. Oui, je peux éventuellement insister sur le fait qu'on n'a pas trop jusqu'ici utilisé les potentialités des banques de questions pour faire des examens avec enjeu, parce que maintenant il est possible donc de délivrer les questions au hasard et voire même de faire un examen par étudiant. Et moyennant quelques contraintes de temps, on pourrait s'économiser beaucoup de soucis pendant les examens. Alors que fait GeekSqueeze ? GeekSqueeze est une interface pour fabriquer des questions, pour en stocker les éléments dans une base de données standard, j'insiste, et pour ensuite générer des questionnaires avec la possibilité de les exporter en ligne. Alors il est compatible SCORM. C'est très important puisqu'il va pouvoir dialoguer avec une plateforme d'enseignement qui est elle-même compatible SCORM et donc lui communiquer le comportement et les résultats de l'étudiant pendant sa session dans le questionnaire. Alors les types de questions, il y a les questions habituelles bien sûr, auxquelles on a rajouté des questions graphiques qui ne nécessite pas les mêmes mécanismes mentaux que de simplement cliquer sur une discussion à choix multiple. Donc c'est un petit peu plus compliqué à fabriquer, mais ça peut avoir des avantages. En tout cas, les étudiants adorent ça, c'est plus ludique. Alors ensuite, quand le questionnaire est généré, on peut l'exporter en DHTML et le mettre en ligne. Alors je vais donc essayer de décrire le plus vite possible le fonctionnement de la chose. Donc ceci est la page d'accueil. On peut donc ouvrir une base de données, en créer une. Dans chaque base de données, on crée des catégories. Ici, j'ai créé une catégorie qui s'appelle physiologie circulatoire, puisque c'est un petit peu mon domaine. Et dans chaque catégorie, on crée des questions. Alors, ici, il y a dans la catégorie physiologie circulatoire, on voit qu'il y a évidemment... Pour les besoins de la démonstration, j'ai créé des questions de tous les types possibles. Donc ici, j'ai choisi... Alors on peut créer de nouvelles questions. Si on crée une nouvelle question, on va vous demander de quel type vous voulez la créer. Sinon là, j'ai choisi de voir les questions à choix multiples que j'avais créées. Donc elles s'affichent ici. Et si je clique dessus, évidemment, je peux voir toute la question et toute sa structure. Si je veux la modifier, je clique là-dessus, la copier, l'effacer, etc. Donc, si je choisis de la modifier, ça m'amène à l'éditeur de questions. Alors, l'éditeur de questions va me permettre de fabriquer ma question. Donc, ici, il y a un champ texte dans lequel je tape ou je colle le texte de la question. En dessous, il y a un champ et je choisis... un média qui va être joué en entrée. Ça peut être une image, une vidéo, un son. Ici, ça sera un son, puisqu'on voit que c'est un fichier MP3 et qu'on n'a rien d'affiché dans la zone de visualisation. Ensuite, on fixe le temps maximal pour la question. Ici, on a un champ optionnel. On peut choisir un lien vers une ressource sur le net ou une ressource sur le réseau, qui va permettre à l'étudiant, en fin de question, d'être renvoyé vers un document qui parle du sujet de la question, qui va lui permettre de réviser qu'il ait réussi ou non le test. Comme c'est une question à choix multiple, on a ici un éditeur de questions en rapport avec 5 réponses possibles. Donc on tape les réponses et on détermine si elles sont correctes ou incorrectes. En bas, il y a le retour final. Quand l'étudiant a validé sa réponse, il voit apparaître ou ne rien apparaître si on n'a rien fait. Mais si on a spécifié des réactions après validation, qui peuvent être du texte, qui peuvent être une vidéo, un son, une image, ça lui permettra d'avoir une première remédiation. Deuxième type de question. Alors bon, la question précédente, cet éditeur est évidemment à peu près le même s'il s'agit d'une question vrai-faux. Ici, une question plus graphique qui est la question à choix multiple ou l'objet à choix multiple. à ce moment-là, on fait exactement la même chose. Sinon que dans les boutons à choix multiples permettent de choisir, ici, grâce à ça, on choisit un fichier image, hein, et on détermine lequel est le bon. Ici, il s'agit de déterminer le moment où l'excitation a s'est propagée dans toute la surface des oreillettes. Donc, ce sera celle-là, la bonne. Et le reste est exactement pareil. Ici, c'est une question croc. Alors, on a ici jusqu'à 8 champs, hein, où on tape des variantes de la réponse, des réponses possibles. Donc elles sont toutes bonnes, sauf le dernier bouton qui nous dit tout ce qui est en dehors de ces choix-là est évidemment faux. Alors on peut spécifier de respecter la case, de respecter l'ordre des mots, et on a une étoile comme joker, et le joker représentant n'importe quel signe ou caractère. Alors dans ce type de questions croc et à trous, on peut avoir un fichier, un feedback immédiat, c'est-à-dire que quand l'étudiant a tapé sa réponse, s'il appuie sur entrée, eh bien, il saura si c'est correct ou pas. Ça lui évitera de perdre du temps à essayer de chercher autre chose alors qu'il a déjà trouvé la bonne réponse. La question à trous, il suffit dans le texte de la question d'introduire un underscore qui représente le trou. Et le trou, on le spécifie ici, toutes les réponses sont bonnes, sauf la dernière qui est n'importe quoi d'autre. Alors là, on a choisi en entrée un fichier image, donc il s'affichera à l'entrée. Ça, c'est une question arrangée des objets. Alors, dans cette question-là, il faut choisir un fichier dit encre, qui est une image, et qui vient en fond. Cette image est vierge, elle n'a pas les réponses. Et ensuite, on a fabriqué des petites étiquettes qu'on choisit ici, ensuite, et qu'on place au bon endroit sur l'image encre. Les coordonnées en pixels seront mémorisées dans la base de données, et comme ça, quand le questionnaire sera joué, eh bien, vous verrez ce que ça donne. Là, c'est la même chose, sinon qu'il va falloir relier les boutons à des morceaux de cette image-là. Ici, il y a 4 morceaux qui ont été découpés a priori, qui ont été stockés sous forme de petits fichiers qui portent les noms qui vont apparaître sur la question finale. Comme ces petits fichiers images sont carrés ou rectangulaires, eh bien, ça n'a pas la précision requise pour délimiter des hotspots, des zones sur lesquelles l'étudiant va pouvoir amener sa flèche. Donc, on a la possibilité de créer des polygones de la précision qu'on souhaite, hein, et de la même manière de les nommer dans ces champs ici. Alors, pour le reste, c'est l'éditeur est évidemment exactement le même qu'ailleurs. Sinon que, bien entendu, le fichier en entrée ne peut être qu'un fichier son, puisqu'il n'y a plus de place pour les images. Voilà. Donc, quand on a construit sa banque de données, on peut créer un questionnaire. Pour créer un questionnaire, donc on choisit un fichier modèle, on nomme le fichier de destination du questionnaire, et on choisit des questions, soit dans l'intégralité de la base, soit dans une des catégories. Donc là apparaissent tous les fichiers de la catégorie, toutes les questions de la catégorie circulatoire, donc on peut voir les caractéristiques de la question ici, et avec ces petites flèches ou en double-cliquant, on les fait passer dans les questions sélectionnées pour le quiz. On peut les faire passer toutes d'un coup. Ici, on peut régler leur ordre avec les flèches montantes et descendantes, ou ici, on peut les mélanger de façon à ce qu'elles apparaissent au hasard dans le questionnaire. Voilà ici l'aspect d'un QCM tel qu'il apparaît à l'étudiant. Ici, on a mis donc un fichier vidéo en entrée avec un cœur qui bat. Et si l'étudiant n'a pas correctement répondu sur la propagation de l'excitation cardiaque, eh bien, dès qu'il a appuyé sur le bouton « Valider, continuer », eh bien, il apparaît une remédiation immédiate sous forme d'une animation qui monte la propagation de l'excitation. Et ici, on a le bouton révision. Ça veut dire qu'on a donné un lien pour que l'étudiant puisse être envoyé un document qui traite de la propagation de l'excitation cardiaque. Voilà un croc. Alors bon, il suffit de taper la réponse là-dedans. Ça, c'est le QCM. Il faut cliquer évidemment sur la bonne image. Ça, c'est arranger des objets. Les objets sont arrangés au hasard dans un panier et on vient les traîner à la bonne place. Ici, c'est relier des objets. Donc, il doit tirer une flèche vers la bonne partie de l'image. Et enfin, ça, c'est exactement la même chose, sauf que, évidemment, il peut cliquer sur toute la surface du polygone que vous avez créé avant. Ici, on a deux boutons dans l'interface, quitter et suspendre. Si vous appuyez sur ce bouton-là, vous quittez le questionnaire et vous n'avez rien fait. Si vous mettez suspendre, vous informez la plateforme que vous avez participé au quiz jusqu'à cette page-là. Et quand vous relancerez le quiz, vous serez ramené à cette page-là. Enfin, la page finale permet de montrer le score, de recommencer ou d'enregistrer et de sortir. À ce moment-là, l'application va donner à la plateforme toutes les informations sur le temps passé, les questions bonnes ou mauvaises et le score final. Voilà, les développements futurs, ça va consister à les porter sur téléphone mobile. Et donc, il suffit pour ça de réduire la taille du fichier modèle. Ensuite, évidemment, il faudra utiliser plutôt une base MySQL, puisqu'actuellement, la base de données se situe sur Access et d'autres types de questions. Et enfin, un système de branchement pourra être mis si on veut utiliser cette application pour faire des patients virtuels, dont je parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc on peut la trouver, télécharger l'application et l'installer pour la tester avec le lien ici. Voilà, je vous remercie.
Bonjour. Donc, je vais vous présenter un petit film. On n'a pas le temps en live comme cela, mais qui a été réalisé avec Jean-Marc Dubois, qui est le directeur du DCAM ici, et dans le service de réanimation du professeur François Stark. Donc, mon propos va être le suivant. Dans un premier temps, vous expliquer un petit peu pourquoi on s'est intéressé à cela. Quelle méthodologie on a utilisée, pourquoi on a inséré quelques images 3D sur ce sujet. Le résultat, c'est le film qui est disponible depuis avril 2010 sur Canal U, donc à la disposition des étudiants. Et puis une petite évaluation qui a suivi et un petit peu de perspective pour la suite. Donc la prévention des risques iatrogènes liés aux dispositifs médicaux, c'est mon travail, c'est-à-dire que je suis praticien hospitalier, responsable de la matériovigilance au CHU de Bordeaux, et pour ceux qui ne sont pas du CHU de Bordeaux, ça regroupe trois hôpitaux, l'hôpital Saint-André, l'hôpital Pellegrin et l'hôpital du Haut-Lévêque Xavier Nozan. C'est-à-dire que le but, c'est de regarder tous les risques engendrés par le matériel, qu'il soit stérile ou non. Ça part de l'aiguille jusqu'au PET scan, en passant par tous les instruments chirurgicaux, pour voir si l'utilisation de ces dispositifs, qui sont faits en général pour traiter le patient, n'engendre pas un nouveau risque, et c'est pour ça qu'on parle de risque iatrogène. En clair, le patient rentre avec une pathologie A, quelquefois on utilise un matériel pour le soigner, et il sort avec une pathologie B, à cause du traitement. Donc c'est toujours un peu ennuyeux, donc l'idée c'est de diminuer ce risque, même s'il existe, parce que les matériels sont de plus en plus sophistiqués. D'autre part, en tant qu'enseignante, j'enseigne la biophysique en médecine, j'entends souvent dans les commissions pédagogiques les étudiants dire que dans les stages, ils n'ont pas assez accès aux actes invasifs, ils ne les voient pas suffisamment, pour plusieurs raisons. La plupart du temps, c'est que le nombre croissant des étudiants dans les stages font que de toute façon, ils voient certaines choses d'un peu loin. Et aussi, la disponibilité des praticiens, leur grande occupation fait que quelquefois, on n'a pas le temps de revenir, d'approfondir, de répondre à toutes les questions. Donc, ces deux éléments m'ont conduit à m'intéresser plus particulièrement à la pose des cathéters veineux centraux par voie sous-clavière. Pourquoi ? Parce qu'en tant que matériovigilant, j'ai été souvent confrontée à des signalements de thrombophlébite du membre supérieur liés à la pose de cathéters. Et les réanimateurs étaient souvent demandeurs de qu'on aille plus loin en termes de groupe de travail sur ce sujet. Donc l'idée, c'était de faire un film, mais en reprenant toutes les recommandations de bonne pratique et surtout cumuler dans un même film les principaux événements indésirables puisés dans la littérature qu'on pouvait donner comme ça aux futurs utilisateurs de façon à ce qu'il ait une vue bien pédagogique de ce qu'il a à faire. Donc un petit groupe de travail s'est constitué, les anesthésistes réanimateurs étaient très demandeurs, des matériaux vigilants, des paramédicaux et les réalisateurs du film. La réflexion pédagogique la plus importante a été sur la structuration des différentes étapes. Qu'est-ce qu'on voulait faire passer exactement à l'étudiant? De quoi on voulait qu'il sache et à quoi s'attendre avant la fameuse pose du cathéter? Ensuite, donc comme ce travail a fait l'objet de deux thèses, une en médecine, une en pharmacie, il a fallu qu'il y ait des commentaires de la voix off, évidemment, qui synthétisent ce qu'il y avait de montré dans le film, à partir de tout ce qui avait été colligé. Et puis ensuite, la préparation et le montage a eu lieu dans le département de M. Dubois. Donc en ce qui concerne les différentes étapes, on a voulu insister, au-delà de la pose du cathéter qui n'est que le point neuf, sur toute l'installation du patient, les repérages anatomiques, la préparation des opérateurs, que ce soit l'infirmier ou le praticien, la préparation du matériel, la préparation cutanée du patient qui comprend un temps assez long dans le film, dans la mesure où il y a 5 temps qui sont très protocolisés à respecter, l'anesthésie locale, la préparation du matériel, les lignes, mais aller jusqu'à la traçabilité de l'acte médical et du cathéter dans le dossier du patient, puis le nettoyage, parce que ça va jusque-là, le contrôle radiologique et, les exemples de complications. Donc en ce qui concerne l'installation du patient, donc il y a quelques vues qui sont extraites du film, bien sûr, expliquer à chaque fois sous la forme d'une petite vignette les choses importantes à se souvenir qui est collée sur l'élément fondateur. En particulier, le patient doit être par exemple en décubitus dorsal strict ou en position de traînée de Lindbourg, expliquer pourquoi cette position est intéressante et dire que le patient doit avoir un masque chirurgical s'il n'est pas intubé. Les repères anatomiques, on va y revenir un peu plus tard. Les préparations, toujours, au-delà de voir la personne se préparer, ce qui, par l'image, intéresse l'étudiant, toujours la petite vignette qui rappelle les éléments fondamentaux qu'il ne doit pas oublier. La préparation cutanée de la zone d'intersection, je vous le disais, prend beaucoup de temps à cause de ces 5 temps qui sont, selon les règles d'hygiène actuellement utilisées dans les blocs opératoires ou dans les services de réanimation. La préparation des lignes, qui est souvent peu anticipée, malheureusement, et qui nécessite du personnel paramédical une certaine attention pour que tout se passe bien au moment voulu, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour poser ce cathéter. Donc, pourquoi on a voulu utiliser des images 3D? Parce qu'à partir du moment, particulièrement pour la veine sous-clavière, qui, comme vous le savez, est une veine profonde, qui n'est pas très visible, qui n'est pas palpable. L'idée, c'était de faire venir des images d'anatomie pour que l'étudiant se repère de façon plus simple pour savoir pour que le concepteur 3D nous aide à lui montrer tout ce que lui ne voit pas. Donc, au-delà des éléments anatomiques qui apparaissent, bien sûr, l'idée aussi, c'était de faire comprendre à l'étudiant qu'on allait lui déterminer un point de ponction et que la façon dont était géré ce point de ponction, il est lié à l'anatomie sous-jacente, bien sûr, qu'il y a quelques éléments pour se repérer, par exemple 1 cm en dessous de la clavicule, et puis aussi prendre un peu de recul pour voir qu'il y a une asymétrie droite-gauche concernant cette anatomie des veines sous-clavières. Donc ici, j'ai vu mes lunettes, je vois bien comme ça. Un autre point, par exemple, où l'image 3D est intéressante, C'est à partir de ce point de ponction donc, dont on a déjà parlé, pouvoir faire comprendre à l'étudiant qu'il faudra qu'il se positionne en se mettant du côté, de, évidemment, de l'opérateur pour faire arriver, par exemple, l'aiguille et qu'il puisse prendre ses repères par rapport à la face, par exemple, interne du sternum et qu'il soit bien dans l'axe, une voix off expliquant à chaque fois comment il faut s'y prendre de façon à ce que l'aiguille aille bien dans la veine sous-clavière. Malheureusement, quelquefois, il y a des ratés. Expliquer que le passage de cette façon peut être rattrapé, parce que si la veine est transfixée, en revenant doucement, le flux peut être récupéré. Et au-delà, maintenant, si on est sur la pose du cathéter proprement dit, et en particulier de la pose... C'est parti, là. Voilà, c'est au-delà de cela. Voilà maintenant le guide qui va servir à positionner le cathéter dans un premier temps. Comment il se situe, jusqu'où il faut descendre. La voix off explique les problèmes qui pourraient se passer si on va trop loin également. Et enfin, quand on retire le guide, bien sûr, tous les éléments qui vont laisser le cathéter en place et le fait qu'on retire le guide, ce que l'étudiant ne voit que la partie évidemment visible et qu'il ne comprend pas complètement tout à fait. De même, encore une utilisation dans les complications immédiates et tardives qui sont expliquées, le fait qu'un mauvais positionnement du guide de ce type, évidemment, engendrera évidemment un certain nombre de problèmes. Donc, ce film qui dure 15 minutes a été évalué aussitôt après auprès d'un petit groupe qui était présent chez le professeur Stark. 11 internes et 2 seniors. Bon, ils étaient de qualité, même s'ils n'étaient pas en grande quantité, puisque la plupart avaient un nombre de poses de cathéter déjà supérieur à 50. Donc on leur a fait, on les a évalués selon 2 questionnaires, un avant le film et un après le film, sur évidemment le même questionnaire. Et on a vu qu'ils arrivaient à s'améliorer, en particulier sur le positionnement du patient et d'eux-mêmes par rapport à la pose, sur les règles d'hygiène qui n'étaient malgré tout pas complètement comprises et réalisées, et sur le type de pansement à utiliser. Par contre, concernant l'intérêt, 100% des personnes trouvaient l'information complète et précise qui leur permettait d'acquérir de nouvelles connaissances et trouvaient qu'il y avait un bénéfice dans leur activité. Donc en termes de perspective, ce qu'on voudrait, c'est continuer à réaliser des films sur des dispositifs médicaux particulièrement à risque, dans la mesure où, en tenant compte des recommandations des fabricants, là je vous rappelle qu'il n'y avait pas, par les fabricants, des films spécifiques sur ce sujet, de leur utilisation dans les règles de l'art, et puis, bien sûr, colliger les complications et les événements indésirables. C'est rare qu'on ait tous ces éléments dans un seul document. Et le but est bien sûr d'en avoir une meilleure connaissance pour diminuer ce risque pour tous les patients potentiels que nous serons un jour. Et donc un certain nombre de personnes ont participé, en particulier Laurent Petit et Vincent Contenceau, qui ont joué leur propre rôle et qui sont acteurs dans ce film, puisque ça a été donc filmé en direct. Je vous remercie.
Je reviens à la charge avec un projet de création de banque de patients virtuels. Mais j'essaierai d'être très bref parce que c'est en fait des problèmes plutôt techniques. Alors un patient virtuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a, en ce qui nous concerne, aucun rapport avec les merveilles qu'on a vues hier. En fait, il s'agit d'un nom pompeux pour des cas cliniques améliorés. Et donc, on va se contenter modestement d'essayer de créer une banque de ces cas cliniques en s'appuyant éventuellement sur un autre concept de patient virtuel qui est simplement une accumulation de données sur un patient. Ce sont les e-patients. Alors, comme ces cas cliniques sont encore plus difficiles et longs à réaliser que des questions graphique, eh bien, il faut s'assurer que le travail réalisé sera pérenne, et c'est pour ça qu'il vaut mieux s'appuyer sur un standard. En ce qui concerne les questions compliquées, complexes, il n'y a pas de standard. Par contre, pour les patients virtuels entendus comme ici, eh bien, il y a un standard, c'est le standard Medbiquitus Virtual Patient, qui est un national standard, donc qui respecte toutes les normes en vigueur sur le e-learning, c'est-à-dire SCORM et les normes INS. Voilà. Le projet européen e-VIP, c'est ce qu'on peut trouver si vous tapez sur Google patient virtuel, vous trouverez sur ce projet qui a été initié par un certain nombre de pays dont nous ne faisons pas partie, je ne sais pas pourquoi, et qui a décidé de créer une grande banque de cas cliniques appelée patient virtuel. Évidemment, tous ces cas sont écrits en langue vernaculaire, donc en anglais, en polonais, en allemand, etc. Et par contre, ce projet respecte le standard MVP. Donc, l'architecture MVP, sans être trop détaillée, ça consiste en un certain nombre de fichiers XML représentant les données patients, des ressources multimédia, un modèle d'activité qui spécifie toutes les actions qui vont pouvoir avoir lieu en fonction des actions de l'utilisateur. Alors, les éléments des données du patient, il n'y a rien de très classique, hein, interrogatoire, examen clinique, complémentaire, diagnostic, traitement, et on va passer du début à la fin, mais en suivant un parcours qui va dépendre essentiellement des connaissances de l'utilisateur. Le modèle d'activité a donc pour rôle de spécifier par une arborescence en nœuds et liens toutes les interactions possibles de l'apprenant avec le contenu. Alors, et tous les compteurs qu'on va pouvoir mettre en route, compteurs de points, compteurs de satisfaction, etc. Tout est à peu près ouvert dans ce domaine. Pour fabriquer ces patients virtuels, le seul logiciel que j'ai pu trouver, c'est le logiciel Open Labyrinth. Alors, il y en a d'autres, mais qui se limitent à un cas clinique linéaire, c'est-à-dire à peu près le même qu'on pourrait faire sur papier. On donne des informations, l'utilisateur clique sur un certain nombre de questions, il voit ses points augmenter ou diminuer, mais ça ne change rien à la suite des opérations. Le scénario se déroule de la même manière, quelles que soient les compétences de l'utilisateur. Puisque ce logiciel est un logiciel qui peut comporter des branchements selon l'action de l'utilisateur. Il s'agit donc de construire une arborescence, et c'est là la difficulté, prenant en compte toutes les interactions entre le logiciel et l'utilisateur. Alors, ça nous rappelle l'arborescence de Jean-Marc Labat dont il parlait hier, et ça n'a absolument rien à voir. La norme impose, chaque cas clinique est séparé des autres, tandis que le projet de Jean-Marc Labat est de construire une arborescence sur un système expert avec une base de connaissances. Donc ça, c'est à la fois beaucoup plus simple, mais une fois que c'est constitué, c'est figé, et ça représente un patient virtuel. Ensuite, le patient est joué par un player qui est fourni par Open et distribué par Open Labyrinth. Et là, on voit une page typique, un bébé. Vous pouvez trouver le cas sur le lien en dessous. Il s'agit d'une méningite chez un bébé. Et donc, vous avez confié le bébé à son arrivée aux urgences à l'infirmière qui lui fait le premier interrogatoire et les premiers examens. Donc, elle trouve ces caractéristiques-là et on vous demande ce que vous allez faire, c'est-à-dire soit vous allez interroger le père et l'entourage, soit vous allez demander à l'infirmière de donner du paracétamol contre la fièvre, ou alors envoyer un bolus de sérum FI parce qu'elle est déshydratée. Et ensuite, eh bien, le chemin, la page suivante dépendra de ce que vous allez répondre. Donc c'est assez intéressant, et en fait, si c'est bien fait, ça se rapproche un peu d'un jeu sérieux. Quand j'ai fait quand je me suis amusé à suivre un petit peu ce cas, eh bien, au bout de trois clics, on m'a informé que le père avait posé plainte et que j'allais avoir des ennuis avec toutes les bêtises que j'avais faites dans simplement trois clics. Donc ça peut devenir amusant, mais c'est évidemment un petit peu compliqué à réaliser. Donc notre projet est de développer un outil, une interface qui va permettre de faciliter la création de ces patients virtuels avec branchement et qui s'appellera GESPEV, qui respectera la norme MVP de façon à ce qu'on puisse pouvoir importer des patients virtuels déjà créés pour les traduire ensuite, éventuellement les enrichir et pour pouvoir exporter nos patients virtuels en respectant la norme, qu'ils soient repris dans des players qui ne soient pas les nôtres. Voilà, alors donc on mettra peut-être à contribution GESQUEEZE là-dedans, et en tout cas on essaiera de faciliter l'acquisition des données patients en utilisant un dossier patient en ligne qui est une application créée par Jean-François Vibert et que remplissent les médecins régulièrement. Donc les données s'accumulent sur les cas cliniques, sur les données interrogatoires, examens complémentaires et paracomplémentaires, qui permettent de définir un patient, une maladie. On peut récupérer ces données-là et ensuite créer une arborescence pour se balader à l'intérieur de ces données. Voilà, donc on essaiera ensuite de l'intégrer dans UMV Class, puisque nous gardons toujours le projet de proposer une application simple, gratuite et permettant de faire de la vidéoconférence et de jouer des cas cliniques et de créer des bases de questions. Enfin, tout ça, ça va un petit peu dans le même projet. Voilà, je vous remercie.
Bonjour et merci pour me permettre de faire cette présentation. Donc, je vais vous présenter un petit peu la situation après 10 ans d'expérience de AD au niveau de l'ISPED. Tout a commencé donc en 2000 avec un soutien du MAE, d'un fonds FSP et donc de la mise en ligne du premier DU. Et depuis, donc, beaucoup de choses ont avancé et c'est ce que je vais vous montrer et avec toutes les questions pédagogiques qu'on a eues derrière ça. Donc juste pour resituer, l'Institut de santé publique donc, qui est dans l'Université de Bordeaux 2 et offre une formation en santé publique particulièrement au niveau du Master de santé publique avec 4 spécialités, biostatistique, épidémiologie, ingénierie des actions de santé et santé internationale et beaucoup de DU proposés en France et maintenant surtout proposés en enseignement en ligne. Tout ça étant fortement associé à un centre INSERM d'épidémiologie et de biostatistique, donc c'est d'ailleurs par là qu'on a attaqué plutôt la santé publique et on a été amené après à ouvrir le domaine de la santé publique de manière plus large aux sciences humaines et sociales par exemple. Donc qu'est-ce qui se passait? Pendant longtemps, il y a eu des DU faits principalement en Afrique et en Afrique subsaharienne et il s'agissait d'aller faire des enseignements sur place, alors bien que ça soit très agréable, tout cela a un coût non négligeable et en plus ne permet que des présences très ponctuelles. De nombreux étudiants venaient à Bordeaux suivre une formation, donc la formation à cette époque-là de DEA de santé publique et d'épidémiologie. Cependant, leur venue entraînait un coût pour eux énorme pour pouvoir s'installer et qui plus est, il faut savoir que c'est de plus en plus difficile pour nos étudiants principalement africains d'avoir des visas pour se permettre de venir en France assez longtemps. Donc cette difficulté de venir en formation en présentiel en France nous a incité à offrir ces formations à distance et donc à répondre à des appels d'offres autour de 2000. Alors le premier donc a été créé le campus numérique SEM en 2000 et en 2001 on a eu l'ouverture du premier diplôme universitaire d'épidémiologie. On a laissé pendant 3 ans donc ça mûrir et on s'est rendu compte que très rapidement les gens demandaient autre chose, ceux qui avaient eu ce DU, principalement un enseignement de statistiques et puis aussi un enseignement d'épidémiologie plus spécifique et tout particulièrement sur l'épidémiologie du VIH et aussi avec l'équipe de Limoges et de Pierre-Marie Preux sur la neuroépidémiologie tropicale. Donc le DU d'épidémiologie s'est ouvert à 2 options complémentaires. Puis le chemin faisant, on a développé autour de la gestion de bases de données, de la communication médicale et de la statistique associée plutôt à la régression. En 2007, moi, en tant que responsable de la première année du master de santé publique, je me suis rendu compte que finalement, avec CDU, on arrivait à avoir des briques qui, mises bout à bout, allaient nous permettre de proposer le master 1 de santé publique en ligne en faisant un petit peu d'ajout. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure de proposer l'enseignement qu'on avait en présentiel complètement en ligne, et tout ça soutenu largement par l'AUF dans cette démarche de création de master. Une fois que le master 1 était ouvert, il était assez normal de proposer le master 2 sur la spécialité épidémiologie qui était celle la plus demandée par nos étudiants. En 2009, on ouvre aussi un DU d'épidémiologie nutritionnelle grâce à Pascal Babergé-Gâteau qui est responsable de l'équipe de recherche en nutrition. Et on a l'opportunité de proposer deux diplômes universitaires, cette fois-ci en espagnol, autour de la promotion de la santé, grâce à des liens que l'on a principalement avec l'Amérique du Sud. À ce jour, les deux DU d'espagnol sont en voie d'ouverture. Cette offre de formation nous permet donc en 9 ans d'obtenir à peu près 2500 étudiants qui sont rattachés à ces diplômes universitaires qui ont eu un des DU proposés. Avec un pic en 2006-2007, on a eu une réduction de possibilités de bourse, donc d'ouverture en 2007, ce qui explique cette baisse. Et puis, petit à petit, c'est en train de remonter. Je vais vous expliquer les soutiens que l'on peut avoir. On est face à une population principalement d'étudiants ou d'apprenants, beaucoup autour de l'Afrique subsaharienne, qui sont les pays avec lesquels on a plusieurs collaborations avec les équipes de recherche, et principalement autour du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Cependant, on a de plus en plus d'étudiants un petit peu partout dans le monde, et certains qui ne sont pas perdus dans l'eau, je vous rassure. Juste pour revenir sur la carte, ça expliquera en gros la problématique que l'on a de faire de l'enseignement qui ne peut pas être synchrone et qui obligatoirement est asynchrone, puisque les décalages horaires nous empêchent de faire de l'enseignement synchrone. Donc, pour le master de santé publique, qui se décompose donc en un master 1, un master 2, et donc une option épidémiologie, on a donc ouvert, comme je vous disais tout à l'heure, en 2007, le master 1, et en 2008, le master 2 épidémiologie, sur les deux parcours professionnels et recherche. Alors, le parcours recherche, c'est très ponctuel pour nos étudiants. On en a en tout eu, je crois, 4 ou 5, puisque forcément, un étudiant, pour se rattacher au parcours recherche, devait être déjà dans une équipe de recherche reconnue dans son pays. Je vous expliquais que les DU nous permettaient d'avoir été des briques pour la construction de notre master. Par exemple, un étudiant qui avait le DU de statistiques en santé, automatiquement, on avait construit l'enseignement de telle manière que ça lui valide deux unités d'enseignement du master, et donc comme ça, il pouvait petit à petit compléter sa formation. Voilà, nos étudiants de master, nous en avons eu à ce jour 129 avec ceux qui sont actuellement inscrits pour 2010-2011. Les soutiens que l'on a eus, donc, nous avons eu le soutien de SIDAction et qui soutient particulièrement donc le DU épidémiologie option VIH. Et cette année, j'avais répondu à un appel d'offres de SIDAction et nous avons réussi à avoir 6 bourses complètes d'étudiants, donc complètes, ce qui n'est pas le cas de l'AUF, mais là complètes pour des étudiants qui s'inscrivent au master en ligne. L'AUF, depuis le début, nous soutient avec des bourses. Le ministère et les SCAC, ça c'est ponctuellement en fonction des pays. Grâce à l'AUF, on a un soutien dans les pays, c'est-à-dire nos étudiants peuvent évidemment aller sur les sites de l'AUF pour avoir les accès à Internet et aussi pour passer les examens. Grâce à l'AUF, aux ambassades, on peut faire des examens sur place puisque toutes les formations que l'on propose sont des formations diplômantes et que la difficulté d'une formation diplômante, c'est évidemment de pouvoir avoir une évaluation et un examen qui veulent dire la même chose dans ces pays que chez nous et donc qui soit fait dans un cadre de qualité pour pas qu'il y ait de triche possible. Alors, quand on a monté l'enseignement, donc c'était un enseignement que l'on voulait diplômant, que l'on voulait en langue française et pour lequel on voulait qu'il y ait un suivi. Donc, soit un suivi qui va être intégralement en ligne pour les DU Et pour le master, eh bien, ça nous paraissait difficile d'avoir que de l'enseignement en ligne. Et donc, on a prévu, dès le début, des périodes de regroupement. Il y a 2 semaines de regroupement, c'est-à-dire 1 semaine à chaque semestre. Pour l'enseignement, ça, c'est les questions pédagogiques. Puisque l'étudiant est face à son ordinateur, il faut lui proposer un enseignement de manière le plus simple et le plus appliqué possible, puisque c'était très bien dit hier par, je ne trouve plus son nom, qui n'avait pas pu être présent, mais dans la vidéo, vous voyez que ce n'était pas simplement les savoirs, mais il fallait les savoir-faire. Et donc, enseigner en ligne des savoirs, c'est une chose. Enseigner en ligne des savoir-faire, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà. Là, il nous fallait principalement des intervenants, des enseignants, des tuteurs qui soient disponibles. Si vous voulez, je pourrais vous montrer le site plus tard. Comme on avait cette idée des DU qui permettaient d'avoir des unités d'enseignement du master, ça veut dire qu'on était dans une démarche d'apprentissage graduel. L'étudiant rentrait petit à petit dans l'enseignement. Et un apprentissage graduel dans une formation ne se réalise que si on a une vraie équipe d'enseignement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un responsable écrive son unité d'enseignement sans regarder ce qui se passe autour et ce qui se passe dans les autres UE. Donc pour ça, on a créé une équipe d'enseignants où finalement chaque enseignant était rédacteur, mais aussi était lecteur et correcteur d'autres unités d'enseignement. Donc il y avait un échange, tout ça afin de permettre une rédaction qui était commune et pour laquelle tout le monde était d'accord, principalement en statistique, qui est ma matière de prédilection, où il fallait évidemment pas avoir des étudiants qui se retrouvent face à des rédactions et des écritures différentes selon l'unité d'enseignement dans laquelle il était. Donc notre choix de pédagogique, c'était de ne pas se limiter à la mise en ligne d'un contenu pédagogique téléchargeable, d'essayer de l'accompagner le mieux possible, sachant qu'on avait principalement un public d'adultes. Le master actuellement en ligne n'est proposé qu'en formation continue. Donc ce sont des professionnels qui, pour la plupart d'entre eux, travaillent dans des organisations non gouvernementales ou dans OMS ou autres, et se retrouvent souvent déplacés par rapport à l'endroit où ils ont normalement la connexion. Et donc il faut une certaine souplesse pour cet enseignement. Donc pour ça, on avait offert donc du document téléchargeable, de l'enseignement en ligne, interactif, et donc l'association des deux. Le gros problème que tout le monde rencontre lorsqu'il veut proposer de l'enseignement complètement en ligne, c'est l'isolement de l'étudiant. Et là-dessus, il faut vraiment... c'est bien beau d'amener toutes les informations, mais si on n'accompagne pas l'étudiant, eh bien ça ne sert pas à grand-chose. Donc, 3 points à peu près qu'on a mis en place. C'est un tutorat individualisé, alors pas pour tous les DU, mais pour la plupart. Donc chaque étudiant a un tuteur. Chaque tuteur a au maximum 10 étudiants. Et donc, ils sont suivis régulièrement et ils peuvent leur poser les questions de manière préférentielle. Il y a un forum, donc les étudiants peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent sur ce forum et un enseignant est tenu de répondre régulièrement, donc à peu près on organise une fois par semaine. Depuis la semaine dernière, on a mis en place des partages de documents, c'est-à-dire que dans le cas précis, je m'occupe moi de 2 unités d'enseignement au Master 1 qui est problème de santé publique et technique d'enquête, et on ne peut pas s'intéresser aux techniques d'enquête si on ne fait pas manipuler un protocole d'enquête aux étudiants. Donc les étudiants, je les mets en groupe, donc ils peuvent être de pays différents. Ils sont en groupe et ils doivent faire toutes les étapes du protocole d'enquête, m'envoyer tous les 15 jours l'état d'avancement. Et évidemment, le fait d'avoir un partage de documents facilite beaucoup ça. Et puis donc, il y a la période de regroupement une fois par semestre. Ces périodes de regroupement, elles sont faites sur plusieurs sites. Je crois que je vous le dirai plus tard. Il y a un site à Bordeaux, mais il y a un site à Bamako, un site à Ouaga, donc au Burkina, un site à Cotonou et quelquefois, selon les années, un site à Tananarive, à Madagascar. Sur chacun de ces sites, nous avons une convention avec des personnes, des référents sur place qui suivent ces étudiants de manière privilégiée, trouvent des assistants qui vont, pendant la semaine, soutenir et aider chacun des étudiants à avancer sur les points qu'ils n'auraient pas compris. Les outils qu'on utilise Ça va ? Les outils qu'on utilise, donc, il y a des pages HTML, des documents téléchargeables, des animations flash en fonction des besoins, des documents riches médias, et puis après dans les outils, des QCM, des crocs ou autres types d'exercices. En termes de procédure de construction, donc, ce que l'on met en place, c'est que chaque enseignant élabore son document de cours. Il va en faire un document Word, hein, c'est un petit peu la même idée que si on utilisait Scénario ou autre, sauf que nous on n'utilise pas Scénario, on va utiliser des personnes qui font le faire pour nous. Chaque contenu de cours va être divisé en grains de connaissances. On va rédiger un storyboard, donc je raconte un petit peu comment je veux que ça se passe. Et on travaille en partenariat avec des médiatiseurs, qui sont des médiatiseuses d'ailleurs, qui va nous aider donc à mettre en place, à mettre en média et en scénario le cours que l'on veut, et donc nous aider dans cette démarche. Et donc on ne demande pas à l'enseignant de scénariser, mais ça va être une personne spécialisée qui va nous aider à faire ça. Elle nous met ça sur un plateforme de maquettage, on valide le maquettage et après on le met en plateforme de production et l'étudiant reçoit ses mots de passe et peut directement y avoir accès. En termes de résultats des examens, donc si je prends l'exemple du Master 1 dont je m'occupe, en gros j'ai 65 étudiants en présentiel, j'en ai 35 en ligne, ils passent tous exactement les mêmes épreuves. Donc en même temps, donc soit en France, soit dans les sites. Donc ça, il n'y a pas. Et en termes de résultats et de qualité de documents, eh bien, j'ai des résultats qui sont complètement comparables entre ceux qui sont en présentiel en France et ceux qui suivent l'enseignement à distance par rapport aux étudiants qui passent les examens. La seule chose qui se passe, c'est que en ligne, j'ai quelquefois des étudiants qui arrêtent plus tôt parce que finalement, ils n'arrivent pas à suivre. Sur les 38 étudiants qui étaient inscrits au début de l'année, à ce jour, il y en a 3 qui ont décidé de ne pas poursuivre. Et on fait donc régulièrement, que ce soit pour le DU ou le master, des enquêtes de satisfaction pour essayer d'améliorer ça l'année suivante. Donc, juste pour terminer, les points très positif de la mise en ligne de cet enseignement, et ça a déjà été dit un petit peu dans les différentes présentations, c'est que le fait d'être obligé de rédiger un enseignement, de se mettre tous d'accord sur une formulation, sur une présentation, c'est quelque chose qui, d'un point de vue pédagogique, est hyper motivant et qui, en plus, améliore de manière non négligeable l'enseignement en présentiel. Le troisième point très, très important, c'est que maintenant qu'on a un nouvel enseignant qui intervient, qui vient à l'ISPED, eh bien, on peut lui montrer les documents qu'on a tous mis ensemble au point, et ça lui permet très rapidement de comprendre dans quelle philosophie on est, et donc après, de nous proposer des modifications, mais en termes d'insertion des nouveaux enseignants, c'est quelque chose qui est très profitable. Donc voilà les différentes structures qu'on voulait remercier, parce que sans elles, rien n'aurait fonctionné. Et l'Université de Bordeaux 2 aussi, qui n'est pas mise, mais qui est... Voilà, je vous remercie.
Je vais vous faire part de notre expérience en termes d'enseignement pour l'apprentissage de l'os temporal pour des étudiants de différents niveaux, donc des étudiants en formation initiale des filières paramédicales d'audioprothèse et d'orthophonie, mais également pour des étudiants plus avancés dans le cursus en troisième cycle d'études médicales de DES, d'ORL. Alors, pourquoi la question de l'anatomie de l'os temporal ? À l'heure actuelle, plusieurs outils sont à la disposition des étudiants pour apprendre l'anatomie de cette région. Les livres, donc l'anatomie classique livresque, l'anatomie en salle de dissection, et pour les étudiants en médecine, ce qu'ils peuvent apprendre au niveau du bloc opératoire. Le problème, c'est lorsqu'on a le retour des étudiants, on se rend compte que souvent l'anatomie telle qu'elle est enseignée de manière traditionnelle a un caractère rébarbatif, parfois inutile. Et comme c'est enseigné dans le premier cycle des études médicales, l'enseignement est souvent précoce par rapport à ce qui est nécessaire pour l'apprendre et pour pouvoir le rendre utile dans l'apprentissage médical en termes de la chirurgie pour l'ORL. Alors, quelles sont les alternatives à ces méthodes d'enseignement traditionnelles ? Actuellement, ce sont les techniques d'anatomie en trois dimensions qui pointent le jour et qui semblent être d'un intérêt certain dans ce domaine. Alors pourquoi pour l'anatomie de l'os temporal ? Parce qu'il s'agit d'une anatomie qui est complexe et surtout qui est une anatomie en trois dimensions où les rapports entre les éléments sont très importants. Et ces rapports sont très difficiles à appréhender sur des schémas en deux dimensions. Alors pour pouvoir mener cette expérience, nous avons utilisé des logiciels qui sont déjà existants, donc qui sont mis à disposition par l'université de Massachusetts, donc aux États-Unis. Et donc ce sont deux logiciels, un logiciel général pour l'os temporal et un logiciel qui est plus spécifique pour l'anatomie de la caisse du tympan. Donc ce qui était enseigné de manière traditionnelle, c'était l'enseignement sur des coupes anatomiques, qu'on peut le voir ici, donc à partir de rochers humains, et des schémas en deux dimensions qui étaient issus de la représentation plus ou moins grossière de l'anatomie réelle. Et grâce à ces logiciels, on peut proposer aux étudiants, soit sous la manière de diaporamas, des schémas reconstruits à partir de coupes de rochers humains, donc avec une précision beaucoup plus souhaitable que ce qu'on peut avoir avec des représentations schématiques en deux dimensions. Et surtout, sur ces modèles qui sont donc des modèles utilisables en live, on va pouvoir, pendant les cours, manipuler ces modèles, faire apparaître ou disparaître des éléments, les faire bouger dans les trois dimensions de l'espace et permettre de mieux appréhender les rapports anatomiques des éléments entre eux. Donc là, par exemple, pour ce genre de schéma en deux dimensions, on a beaucoup de difficultés à appréhender les rapports entre les osselets au niveau de l'oreille moyenne, donc que ce soit sur une coupe sagittale ou sur une coupe frontale, alors que lorsqu'on utilise le logiciel et lorsqu'on peut faire tourner l'image, à ce moment-là, ben, on comprend mieux les rapports des éléments entre eux, et souvent, c'est ce dont se plaignent les étudiants dans ce domaine. Alors, nous avons utilisé ces logiciels dans le cadre d'une étude d'intervention pour voir s'ils amélioraient vraiment l'apprentissage de l'anatomie de l'os temporal dans deux groupes d'étudiants. Donc 19 internes du DES d'ORL de l'interrégion sud, donc pour qui étaient en formation sur Montpellier, Nîmes, Marseille et Nice, mais également donc c'était utilisé comme un complément d'enseignement par rapport aux enseignements classiques d'anatomie en deux dimensions. Donc ces enseignements avaient été réalisés sous la forme de diaporamas et d'utilisation du logiciel grâce à Adobe Connect. Et nous avons proposé pour ces étudiants des questionnaires d'évaluation et de satisfaction. Et le deuxième groupe, c'était celui d'étudiants en formation initiale en audioprothèse et en orthophonie, donc où ces logiciels étaient présentés pendant les cours en présentiel. Des reconstructions en trois dimensions étaient rajoutées à l'enseignement classique en deux dimensions, et le logiciel était laissé en libre service pour les étudiants. Nous avons également réalisé des questionnaires d'évaluation et de satisfaction, et nous avons essayé de montrer s'il y avait une différence en termes de résultats aux examens de fin d'année d'anatomie pour ces étudiants. Donc, juste pour schématiser les résultats des questionnaires des internes, donc des étudiants de troisième cycle d'études médicales, ce logiciel est quand même bien accueilli. Parce que déjà, lorsqu'on regarde la première question, est-ce que ces étudiants considèrent que leurs connaissances anatomiques pour l'os temporal sont suffisantes à ce stade de leur formation? La majorité d'entre eux estiment que leurs connaissances sont insuffisantes. Donc, il y a vraiment un manque et un besoin qu'il faut tout de suite remplir d'une manière ou d'une autre par certains outils plus ou moins disponibles. Et les outils disponibles ne satisfaisaient que de manière très partielle, dans moins de 20% des cas, les étudiants qui les utilisaient. Donc lorsque nous avons présenté cette anatomie en trois dimensions avec ces logiciels, on a vu que ce logiciel était quand même bien accueilli par la totalité des étudiants. En termes à la fois de connaissances anatomiques, mais aussi de possibilités d'améliorer les compétences chirurgicales. Donc ce logiciel était jugé comme facile à utiliser par les étudiants qui l'ont manipulé. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que cet outil peut être utilisé en auto-formation pour la plupart des étudiants, mais que également il y a un besoin d'utiliser ce logiciel soit en groupe, soit avec un tuteur. Donc en fait, on ne perd pas complètement l'intérêt de pouvoir participer à des séances de groupe pour la formation des étudiants avec ce logiciel. Bon, maintenant, si on regardait les questionnaires légèrement différents pour les premières années, donc qui ont des besoins totalement différents de ceux des étudiants en médecine de troisième cycle. Alors, le logiciel d'anatomie en 3D avait été jugé comme assez utile pour pouvoir améliorer la compréhension des cours réalisés en deux dimensions qu'ils avaient eus. Pour la majorité des étudiants, ce logiciel avait été jugé comme facile à utiliser, mais certains étudiants sont encore assez réticents à l'utilisation de logiciels de ce type. Et de la même manière, comme pour les étudiants de troisième cycle d'études médicales, la plupart d'entre eux l'envisageaient comme un outil d'auto-formation, mais une très grande majorité n'éliminait pas non plus l'utilisation soit en groupe, soit avec un tuteur. Pour les étudiants de première année, donc d'orthophonie et d'audioprothèse, nous avons comparé les notes pour les étudiants qui avaient eu les cours seuls et les cours avec l'anatomie en trois dimensions. Bon, et on a vu qu'il y avait quand même des scores qui étaient meilleurs pour les étudiants qui avaient bénéficié de cet enseignement. Alors, vu que nous avions fait tourner deux tests pour éviter d'avoir des risques de fuite de sujets pour les étudiants d'orthophonie et d'audioprothèse, nous avons fait une étude multivariée pour voir s'il n'y avait pas un effet du test. Alors, effectivement, il y avait un effet du test sur ces résultats, mais après correction, l'effet de l'anatomie en trois dimensions restait significatif, donc avec une amélioration des résultats en fin d'année. Donc, au total, nous espérons montrer que ce type d'apprentissage améliore les connaissances formelles en anatomie de l'os temporal, ce qui confirme plusieurs études déjà publiées, mais améliore également la mémorisation à moyen terme, puisque ces cours avaient été présentés au moment des enseignements, alors que les évaluations avaient été réalisées 2 à 3 mois plus tard, au cours de la fin du premier semestre. Donc ce projet, nous l'avons soumis à l'UNF3S et il a été accepté pour diffuser de manière plus large l'utilisation de ce logiciel par réalisation de vidéos commentées mises à la disposition des étudiants et rajouter à ce projet un deuxième versant qui sera de la simulation chirurgicale pour les étudiants en DES. Je vous remercie.